Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Fonction, votre podcast dédié à l'éducation fonctionnelle qui vous est offert par Mayuro et MOS. Depuis plus de 10 ans, Mayuro et MOS collaborent dans l'objectif d'assurer aux praticiens et aux patients des outils et traitements adaptés aux thérapies myofonctionnelles. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de mettre à profit leur lien solide pour vous offrir une série de podcasts dédiés à l'éducation fonctionnelle et visant à vous fournir un maximum d'informations complémentaires à votre travail. Place au troisième épisode, les questions qui reviennent souvent. Avec Brigitte Pierra, logopède et formatrice chez Mayuro, Sébastien Lisens, logopède et formateur chez Mayuro, Jérémy Mailleux, représentant de MOS, et Nathalie Detière, experte comptable. Bonne écoute.
Parlons fonction.
On va attaquer déjà tout simplement par comment bien choisir le dispositif, le bon dispositif pour son patient. Brigitte, est-ce que tu veux commencer sur ce sujet ?
Oui, avec plaisir. En général, on essaye quand même de s'adapter à l'âge du patient. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand on contacte MES, on reçoit déjà une grille nous permettant de nous guider en fonction de l'âge de notre patient. Ça, c'est vraiment la première chose à considérer. Et puis, le deuxième aspect, et qui pour moi est encore beaucoup plus important, c'est vraiment la fonction sur laquelle on veut agir, donc la problématique fonctionnelle du patient. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un sevrage de succion. Donc là, ça va déjà nous guider sur le type d'appareillage qu'on va proposer. Et si l'enfant, en plus, est jeune, ben, on va peut-être aller plus vers un intercepteur labial, un écran buccal, plutôt que les systèmes de gouttières, donc les autres éducateurs fonctionnels. Mais on peut également se dire, ben voilà, mon objectif, c'est plutôt la restauration de la ventilation nasale et l'automatisation en nocturne. Alors là, je vais aller vers un autre appareillage. Ou bien si je dois canaliser la langue, tant au repos, mais donner aussi une information à la langue, une information proprioceptive à la langue, pour qu'elle puisse s'adapter durant l'articulation, la phonation, la déglutition, je vais alors plutôt m'orienter vers une gouttière qui va plutôt cadrer la langue, alors que l'intercepteur, lui, ne pourrait pas le faire.
Il y a des dispositifs, on en a déjà parlé, des dispositifs à partir de 3 ans, mais est-ce qu'on peut aller avant ça ? Est-ce qu'il y a des dispositifs qu'on peut utiliser qui sont indiqués pour un âge de 3 ans, mais qu'on peut éventuellement proposer à des plus jeunes enfants ?
Alors là, je vais peut-être laisser la parole à Sébastien, qui a déjà eu le cas à plusieurs reprises.
Donc c'est vrai que les âges sont théoriques, ça dépend vraiment un peu de ce que présente l'enfant. Comme dit Brigitte, au niveau dysfonction et dysmorphose, ça on y reviendra. Ça dépend de la maturité de l'enfant. Donc un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, parfois est déjà très réceptif à ce genre d'approche, est déjà dans une dynamique de sevrage, de succion, il a juste besoin un peu d'un coup de main, d'un matériel qui va prendre le relais de cette tétine. Et au contraire, on peut avoir des enfants de 5 ans qui ne sont absolument pas prêts à entamer ce type de démarche, même s'il n'y a plus de succion, mais qui ne sont pas prêts à recevoir un appareil en bouche, à dormir avec, à avoir un appareil à gérer, à entretenir, à suivre dans le temps. Donc c'est plus une question de maturité et aussi un peu de la dynamique familiale. On doit vraiment tenir compte dans cette approche d'éducation fonctionnelle où l'ensemble de la famille est vraiment là en soutien avec l'enfant et doit avoir aussi son rôle de responsabilité et de suivi dans ce genre de mise en place de dispositifs à la maison et pendant toute la durée du sommeil. Donc c'est vrai que moi, personnellement, en pratique, j'ai déjà réussi à mettre un intercepteur labial à un petit garçon d'à peine 2 ans pour essayer un peu de diminuer la succion. Ce n'était pas encore vraiment un sevrage vu son jeune âge, mais qu'il a vraiment bien géré pendant la période de sieste, pendant les périodes un petit peu plus calmes en fin de journée, avec la possibilité de maintenir quand même la tétine plus alors la nuit comme réconfort et arriver à un sevrage progressif alors au niveau nocturne. Et ça a très bien fonctionné.
Ouais. D'accord. Mais c'est un peu une exception.
C'est un peu une exception. Maintenant, je pense vraiment qu'en règle générale, on peut dire qu'à partir de 3 ans, c'est vraiment un âge qui est clé, qui est vraiment possible à proposer ce genre de dispositif.
Ouais. D'accord. Jérémy, toi, donc, tu vends les dispositifs. Brigitte parlait d'une grille qu'on pouvait trouver chez MOS. Donc évidemment, toi, tu écoutes les retours des praticiens, mais tu as aussi le retour des fabricants. Quelle est la position des fabricants par rapport à ça, justement par rapport à l'âge ?
Ben, en fait, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais on présente une grille d'âge parce qu'en fait, maintenant, l'offre est tellement pléthorique. avec beaucoup d'appareils qui font la même chose. Je veux dire, il n'y a pas grand risque de se tromper, si ce n'est au niveau des classes dentaires. Vous m'arrêtez si je me trompe. Mais donc, il y a beaucoup d'appareils qui remplissent le même rôle au niveau des fonctions. Mais il y a évidemment des tailles un peu différentes, avec des noms différents. Et donc, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, l'idée, en fait, c'est de faciliter le choix. Et pour ça, il y a une grille avec des âges. Mais j'ai l'impression, au départ, qu'ils proposent des âges, parfois aussi pour avoir chaque catégorie d'âge et pour... ah ben, il a 3 ans, je prends un 3 ans. Mais on a des petits pour denture lactéale et des plus grands pour denture mixte. Souvent, chez nous, j'ai l'impression que la transition, le choix se fait à ce niveau-là. Après, il y a des petites bouches, des grandes bouches. Et ce que j'aime bien aussi peut-être préciser sur cet aspect-là, c'est que c'est la preuve que ce sont des appareils standards. Ils peuvent être adaptés. Donc, il y a aussi des produits qui peuvent permettre de meuler un petit peu les gouttières et tout ça. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Et donc, même pour un âge certain, il y a simplement un petit patient, il va refuser de le porter, il va pas avoir la compliance nécessaire pour avancer dans le traitement avec l'équipe autour de lui. Moi, j'ai un bon exemple. J'ai des jumeaux, donc un garçon et une fille. Quand ils avaient 2 ans, j'ai essayé pour voir un peu ce que ça donnerait. Il y en a un, il a tout de suite trouvé que ça faisait un peu protège-dents de sport et il voyait son grand frère et donc c'était sympa. Et ma fille, elle avait un petit peu plus de mal à le porter, mais elle avait aussi, on l'aborde plusieurs fois, ce problème de respiration nasale. Donc, moi, je suis pas... j'ai essayé. J'ai évidemment pas fait un traitement seul de mon côté, mais j'ai testé pour voir quelle était simplement comment il recevait l'appareil. Et je sentais bien que pour elle, pour des raisons de perméabilité nasale, c'était pas évident, mais aussi qu'elle était beaucoup moins motivée. Donc il y a aussi, troisième point, le confort. Donc quelque chose de trop invasif qui va faire peut-être le taf, mais que le patient va trouver beaucoup trop agressif dans un premier temps, oblige parfois le praticien à sélectionner des appareils en 2 phases. Un pour d'abord habituer un peu, et puis pour avancer sur celui qu'on avait choisi.
Et c'est pour ça que je rebondis sur Jérémy avec son offre pléthorique. C'est super intéressant. Ça se développe de plus en plus depuis ces dernières années. On a beaucoup de gammes différentes avec des gammes qui vont proposer des matériels qui vont être plus souples, d'autres un peu plus rigides, d'autres qui vont être un peu plus petits, un peu plus larges. Et on a vraiment moyen de trouver dans toutes ces gammes ce qui correspond le mieux au patient. Ah. Donc ça, le confort, il faut vraiment insister là-dessus pour que l'enfant soit à même de le porter. S'il est confortable avec, il voudra le porter. Mm-hmm. Il sera vraiment positif et réceptif. Et ces différentes gammes nous permettent aussi de s'ajuster au mieux à la dysfonction et à la dysmorphose. C'est vrai que ça se ressemble fort de gamme en gamme, mais ils ont chacune un peu leur subtilité. Et mieux on va correspondre et répondre à la dysfonction, à la dysmorphose, mieux ce matériel va agir et va nous aider dans ce processus de réponse de croissance et d'automatisation des fonctions.
C'est ça. Mais donc, il y a quand même un besoin d'expérience par rapport à ces dispositifs. Il faut du temps quand même pour maîtriser cette gamme pléthorique, comme vous dites, ces gammes pléthoriques. Donc ça, c'est important de les utiliser, en fait, simplement, pour justement avoir cette expérience. Mais bon, voilà, il peut y avoir la peur de se tromper, mais j'imagine que dans toutes les disciplines médicales, il y a toujours un petit peu cette peur de se tromper, mais il faut quand même pouvoir y aller. Et du coup, j'imagine qu'il faut échanger aussi avec les différents praticiens pour justement améliorer l'expérience. On parlait motivation. On a bien compris, Sébastien, tu parlais de la situation familiale. Il y a pas mal de retours, ça, justement, sur « bon, ok, j'ai bien ciblé le dispositif que je dois placer ». Mais en fait, je me rends compte que juste bien choisir le dispositif, ça fait pas tout. Il faut que le patient le porte. Souvent, le patient, il est jeune, et donc du coup, il faut que les parents supportent le patient. Comment vous faites, vous, dans votre pratique, pour améliorer cette motivation, Sébastien?
La première chose à laquelle je pense, qui est excessivement importante, c'est que nous, on a la chance en tant que logopède de voir régulièrement les patients, et donc ces outils vont vraiment faire partie intégrante de la prise en charge. Donc on a d'abord toute une étape où on va tester différents types de matériel pour trouver celui qui correspond le mieux au patient, encore une fois dans cette notion de confort. Et puis on va avoir toute une étape vraiment d'acceptation du matériel en séance, au cabinet, avec tous des repères vraiment perceptifs que l'enfant doit être capable de ressentir, de retrouver pour gérer ce matériel de la meilleure façon possible à domicile. Et c'est vrai que le fait de les voir régulièrement en séance avec leur dispositif, non seulement on peut remarquer s'il y a des traces d'usure, s'ils sont déchirés, s'ils sont mal positionnés, ou au contraire, s'ils sont mis d'une manière vraiment optimale, qu'ils ne s'abîment pas, que l'enfant est confortable, que ça tient la nuit. Et le fait de les voir régulièrement, ça conforte l'enfant, ça rassure les parents, et on a un peu ce relais entre ce qui se passe en séance et puis alors ce qui se passe à domicile, parce que les parents sont conscients aussi de la bonne manière de le porter. D'accord. Et l'enfant est vraiment maître et acteur de sa prise en charge et de l'utilisation de ce type de matériel.
Alors moi je pourrais peut-être rajouter que les enfants sont souvent preneurs du petit matériel qu'on leur propose, et la réticence elle vient parfois plus des parents, et donc il faut vraiment les rassurer. Et alors on peut, moi personnellement j'ai tendance à proposer aussi une grille de renforcement que l'enfant remplit à l'aide des parents, et comme ça me permet aussi de voir à partir de quel moment l'enfant maintient le matériel toute la nuit par exemple, s'il le met régulièrement, etc. Donc voilà, j'ai quand même des petits points de repère. Comme Sébastien le disait, l'enfant vient à chaque séance avec son petit matériel. Et outre les traces d'usure qu'on pourrait rencontrer, le fait que l'enfant le mette devant nous, ça nous donne déjà une indication sur est-ce qu'il le met régulièrement ou pas. Parce que s'il ne l'a plus mis depuis 15 jours, il va se dire dans quel sens est-ce que je dois le
Qu'est-ce
mettre.
Qu'est-ce que c'est ça?
C'est à moi.
Voilà. Ok.
C'est déjà arrivé que des enfants le mettent à l'envers devant nous, et ils ne sont pas confort, l'enlèvent, regardent le matériel, se demandent un peu ce que c'est. Et là, on est directement sûr qu'il n'a pas été mis régulièrement et qu'il redécouvre un peu le matériel.
Oui, tout à fait.
Mais ça, c'est très, très évident dans notre pratique à nous, de distributeur, parce qu'on a parfois ce... Alors, c'est souvent avec des plus expérimentés qui ont un peu l'habitude, et donc parfois on nous demande, est-ce qu'on peut envoyer un appareil chez un patient ou des choses comme ça. On dit toujours, c'est vous le praticien, déjà. Mais par contre, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas laisser le patient se débrouiller avec ça. C'est pas ça qui fait le traitement, en fait. C'est un support de traitement. C'est une aide. C'est quelque part, le patient, il rentre avec une partie du praticien chez lui. Et donc, le discours est inscrit dans l'appareil. Et donc, pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de... Imaginez, il essaye l'appareil et puis il n'arrive pas à le tenir. On n'a pas vérifié ça au fauteuil. Il ne va jamais le mettre. On va perdre 6 mois. Tous les logos, tous les orthos, tous les dentistes parlent de potentiel de croissance. Agir au bon moment, finalement, on est quand même tenu par le temps. Perdre 6 mois alors qu'on avait la bonne idée, c'est dommage. Donc il y a vraiment quelque chose où il faut qu'il y ait un accompagnement pour que le symbole de la gouttière existe vraiment et soit efficace. Et donc, d'ailleurs, on est là pour, au début, on accompagne en disant, au lieu, on ne dit pas prenez 20 appareils et puis vous verrez comment ça marche. On dit, appelez-moi. Dites-moi quels sont vos objectifs thérapeutiques avec un patient, et moi je vous donne les caractéristiques techniques des appareils que je peux vous proposer, et c'est à vous de trouver celui qui matche le mieux avec vos besoins. Et donc on le fait au cas par cas, donc on passe beaucoup de temps au téléphone ou par mail, mais évidemment on accompagne, parce que tous les patients sont différents, mais il faut que ce soit un accompagnement sur place, avec un suivi après pour voir si c'est bien porté. Et quand il le met à l'envers, regardez le temps qu'on perd, quoi.
Oui, ça paraît clair. Il y a aussi des questions pour les patients handicapés. Est-ce qu'on peut placer un dispositif comme celui-là chez un petit patient handicapé qui a plus de complications? Comment est-ce qu'on fait?
Donc ici, nous, on n'est pas spécialisé dans le monde du handicap. C'est un monde qui est vraiment très compliqué. Oui. Je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à pouvoir proposer à ce type de patient. Maintenant, nous, on conseille toujours que dans la phase nocturne, on le déconseille parce que souvent, chez la personne polyhandicapée, il n'y a pas vraiment le réflexe d'expulsion.
D'accord.
Et donc, ça pourrait mettre quand même un petit peu en danger le risque d'inhalation éventuelle du matériel. Que le patient neurologiquement sain, lui, a vraiment le réflexe d'expulsion. C'est ce qu'on constate les premières nuits, c'est que l'appareil tombe, le temps qu'on s'y habitue. Par contre, on a déjà vraiment aidé des personnes handicapées avec beaucoup de bavage, beaucoup d'hypotonie au niveau de la sphère labiale, linguale, à porter un petit peu un matériel. Souvent, c'est un peu plus simple, c'est les intercepteurs, les écrans, pour améliorer un peu la compétence labiale, diminuer un peu le bavage, mais toujours en surveillance, avec de l'accompagnement, avec une bonne gestion du matériel. Il y a des collègues qui le testent aussi avec des personnes handicapées qui présentent beaucoup de parafonctions, beaucoup de morsures, de mordiments, pour essayer un peu de mettre le système un peu plus au repos, mais toujours dans un accompagnement, pour ne pas risquer des choses négatives inhérentes à l'appareil.
Ok, super. Je propose qu'on finisse cette partie-là autour des dispositifs avec le travail en collaboration. C'est une question qui revient souvent de la part des logopèdes. Donc évidemment, on a bien compris que notamment tout ce qui était gouttière, ça a quand même beaucoup d'aspects orthodontiques, dentaires. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à bien travailler avec les professionnels du monde dentaire face à ces dispositifs et comment est-ce qu'on établit son réseau et comment est-ce qu'on se rassure aussi un petit peu par rapport à ces professionnels-là ? Est-ce que c'est facile de les atteindre ? Est-ce que c'est facile de communiquer avec eux ?
Je vais commencer. Je vais essayer de répondre et Sébastien me complétera certainement. La collaboration, elle est vraiment capitale et prendre un contact avec le dentiste ou avec l'orthodontiste consulté par le patient, c'est vraiment une priorité. Maintenant, les spécialistes avec lesquels on a l'habitude de travailler nous font confiance et nous disent ben voilà, on sait comment tu travailles, donc tu peux y aller, utilise l'éducateur fonctionnel que tu préconises avec le patient. Mais quand on est face à un autre professionnel avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler, là, c'est vraiment capital d'expliquer notre manière de travailler, notre philosophie de travail et d'expliquer que nous sommes les spécialistes du fonctionnel et que nous n'allons nous attaquer qu'au fonctionnel. Et évidemment, si on modifie le fonctionnel, en général, la forme devrait changer. Si nous travaillons bien, on devrait avoir une réponse de la forme. Mais en aucun cas, nous ne faisons de l'orthodontie. Nous ne modifions, ce n'est pas notre objectif de modifier la forme. Notre objectif, c'est de modifier le fonctionnement. Et si la forme répond, tant mieux.
Oui, bien sûr.
Et donc, Sébastien va certainement aller dans mon sens, mais on a beaucoup plus d'orthodontistes qui nous disent allez-y, parce que nous, on n'a pas le temps de recevoir, surtout les jeunes enfants, on n'a pas le temps de les recevoir. Donc, si vous pouvez faire un travail fonctionnel de qualité en amont, c'est tout bénéfice pour le patient. Et l'intérêt, c'est pas de prendre le patient, c'est l'intérêt du patient avant tout.
C'est vraiment sur ça que je voulais rebondir, c'est notre philosophie. C'est l'intérêt du patient, donc tout ce qu'on va pouvoir proposer pour le patient, dans son bénéfice à lui, c'est la première des choses qui nous intéresse. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a la chance, dans le cercle de prestataires de soins avec lesquels on travaille, on est tous dans cette dynamique et on est vraiment là pour aider, pour accompagner le patient. Maintenant, le côté pluridisciplinaire et le fait de prendre contact, c'est hyper important. Ça crée des liens, ça crée des équipes. Mm-hmm. Ça nous permet de nous améliorer dans nos pratiques respectives. Et rien ne remplace le fait d'aller observer le monde dentaire travailler. Ce sont des gens qui sont hyper ouverts, qui sont accueillants. On apprend énormément avec eux quand on va passer des journées en cabinet d'orthodontie, en cabinet dentaire. Eux comprennent mieux aussi notre travail, le rôle qu'on a. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, par rapport à Brigitte, c'est que justement ces éducateurs fonctionnels ont cette chance d'être standardisés. Oui. Donc ce sont des appareils qui sont passifs, qui n'ont pas pour but d'émettre des forces sur des dents. Donc on n'est pas dans l'orthodontie active, on est simplement dans de la modification musculaire. Mm-hmm. Et on sait bien que si le fonctionnement musculaire du patient change, automatiquement on aura une réorientation de la forme dans les bas âges, dans les périodes de croissance, bien entendu. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'au profit de la forme, on s'attaque vraiment...
Non, mais c'est mieux, former, c'est bien.
C'est beau, hein ? Oui. On s'attaque vraiment sur la fonction. Et on regarde la forme un peu comme témoin, parce qu'on a des situations différentes où on constate au fur et à mesure que la forme n'évolue pas comme elle devrait. Mm-hmm. Et donc là, on réajuste nos traitements. Peut-être le choix d'éducateur professionnel, on prend le relais de l'orthodontiste, encore une fois, pour que le patient évolue et que ce soit idéal pour lui.
Tu voulais rajouter quelque chose, Jérémy ?
En fait, c'est vraiment génial d'entendre ça, parce que moi, ça fait 20 ans, allez, 15 ans qu'on fait ça, qu'on y croit. On vient de l'orthodontie. Nous, on est distributeur de matériel orthodontique au départ. Donc, on a eu accès à ces appareils par l'orthodontie, parce que des orthodontistes les ont placés et ont... créer un workflow, un process au sein de leur ville ou même de, parfois de leur cabinet. Donc au départ, c'était comme ça. C'était des gouttières, il y avait des gouttières de correction de classe 2, des gouttières de correction de classe 3. C'est des aspects orthodontiques. Et donc, on s'est aperçu rapidement qu'en fait, comme d'habitude, il y a des choses qui peuvent amener éventuellement des conflits, qui fait quoi et tout ça. Et en fait, on se rend compte que dans toutes les professions médicales, on se spécialise tellement que comment voulez-vous quelqu'un fasse tous les postes ? Donc on est de toute façon amené dans l'évolution de sa pratique médicale à référer, à discuter, à échanger. Et ce qui s'est passé, c'est que on a eu exactement ce que tu disais, Brigitte, c'est des gens qui ont simplement dit... Alors au départ, on a dit, ouais, mais ces appareils, ce n'est pas des appareils miracles, parce qu'il y a des gens, et ça, évidemment, il faut avoir l'esprit un peu critique, ce n'est pas des appareils qui vont faire des miracles. Et comme ça a été présenté comme ça, bah, y a plein d'orthodontistes qui utilisaient ces appareils qui se sont dit, bah, mais attends, on ne va pas dire que ça va tout résoudre. Et éviter les traitements ortho. On a entendu des choses comme ça, ce qui est totalement faux, puisqu'en plus de ça, c'est entre les mains de l'ortho. Donc c'est lui qui va... C'est un outil supplémentaire. C'est uniquement ça. Et donc, éventuellement, ça peut alléger un traitement ortho. C'est possible. Mais encore une fois, c'est le praticien qui dira ça. Et encore mieux, enfin pas encore mieux, mais dans un premier temps, ça peut... éviter des récidives. Les récidives en orthodontie, c'est quelque chose, les dents bougent toute la vie, on est obligé d'y faire face. C'est un point central de leur métier aux orthos. Et donc, si on peut éviter les récidives dues à une déglutition atypique, simplement, les dents qui continuent à pousser, la langue qui continue à pousser sur les dents et qui va faire que, voilà, si on peut avoir rééduqué cette partie-là. Donc, de toute façon, ça va donner un outil qui va permettre de diminuer ce risque de récidive sur certains points. Donc, voilà, on rentre éventuellement dans ce créneau. Et après, comme tu disais, ben, j'ai pas le temps de suivre, puisque c'est quelque chose qui se suit, puisque c'est de l'amovible, on peut pas le fixer en bouche, on peut pas être sûr qu'il le porte, il faut suivre. Et les orthos ont dit, mais moi j'ai pas le temps, je détecte pas forcément les enfants suffisamment jeunes pour pouvoir mettre ces dispositifs. Et là tout d'un coup intervient qui ? Ben, le dentiste qui fait aussi parfois un peu d'ortho en Belgique, y a des omnis, il y a des exclusifs. Donc tout à coup on se rend compte, on en parle souvent, quand vous devez dire ce dispositif, il faut le mettre dans la bouche et respirer par le nez. Mais combien de fois on mettait des dispositifs, j'en parlais tout à l'heure avec ma fille, et en fait il n'y a pas de perméabilité nasale. ORL. Donc on est déjà, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, on me dit toujours que je parle trop longtemps, mais on ouais, est ORL, dentiste, ortho, logopède, on a déjà quatre disciplines autour de l'enfant, quoi. Donc évidemment qu'il faut se répartir les rôles, et ça on le voit tout le temps, et donc c'est pour ça que nous, bah, en fait toi, quand on s'est rencontrés, Seb, tu avais bossé dans tes cabinets ortho, et vous avez défini une manière de procéder où une fois que t'as... En fait le but est de parler le même langage. J'ai une classe 2, j'ai de l'expansion à faire, j'ai tous ces trucs-là, tout ce langage ortho que les logopèdes doivent connaître, tout ce langage logo, fonction, que les orthos doivent connaître. Et à ce moment-là, on a vraiment le même discours.
En fait, je crois que la grosse difficulté dans ce genre d'approche, c'est que ça paraît simple, parce que c'est des petites gouttières qui sont molles, qui sont faciles à mettre en bouche. Et donc, on se dit, tiens, c'est très simple d'accès, on va proposer ça en fonction de l'âge, un peu de la dysmorphose. Et en fait, on oublie le plus important, c'est qu'on joue sur les fonctions primaires.
Oui.
Voilà, l'être humain, il est conçu pour ventiler H24, et si c'est pas ventilé correctement, il va pas pouvoir tenir cet éducateur fonctionnel. Donc on est obligé d'avoir un groupe de prestataires de soins autour de nous pour être sûr que le terrain fonctionnel de l'enfant soit favorable à l'acceptation de ce matériel. Sinon c'est des échecs, ça tient pas la nuit, ça tombe, on perd la motivation à ce moment-là du patient parce qu'il se met en échec, il dit qu'il n'arrive pas à la tenir, donc il pense que c'est de sa faute, et le côté pluridisciplinaire est vraiment super important.
On va donc clôturer l'aspect vraiment pratique, dispositif. Juste, Jérémy, avant que tu laisses ta place à Nathalie, l'experte comptable qui va nous expliquer un petit peu le canevas administratif, on va donc aborder l'aspect financier. Et l'aspect financier, c'est aussi la tarification des dispositifs. Toi, en tant que distributeur, est-ce que tu peux nous donner une idée un petit peu du prix d'un appareil qu'on peut trouver chez toi ?
Alors, les gens disent toujours que c'est trop cher.
Bien sûr.
Ça, c'est le premier. Non, c'est pas vrai en plus. C'est plutôt des dispositifs abordables. On est entre 20 et 60 euros. Ça dépend un peu les types d'appareils. Tout ça peut se trouver sur les sites. Alors, première chose, ce qui est très important, c'est que nous, on ne vend coprofessionnels de la santé.
D'accord.
Donc on n'a pas le droit de vendre aux particuliers. Donc c'est uniquement via ce canal-là qu'on distribue nos produits. Et donc ils y ont accès, que ce soit sur le site ou en direct, que s'ils ont créé un compte qui a été validé par nos soins, c'est-à-dire qui est vérifié plutôt, pas validé, vérifié professionnel de la santé. Après, ils peuvent, avec des remises, mais on est entre 20 et 60 euros. Et alors, il y avait un petit aspect, il faut vérifier un petit peu, parce qu'il y a toujours interprétation aussi, après, pour la partie comment je le tarifie de l'autre côté, j'imagine qu'on va aussi aborder cette partie.
Tout à fait.
On pourra parler d'un point qui est assez important, c'est qu'il y a des codes de traitement interceptif en ortho, qui ont parfois été utilisés avec ces appareils par d'autres praticiens. Et ça vaut la peine. Alors, on en discute avec les orthos et tout. Donc, on a déjà abordé ce sujet quand on a discuté ensemble la fois précédente. Mais il faut faire attention à ça. Et c'est un autre élément de la pluridisciplinarité qui est central. C'est que si on a besoin d'un vrai dispositif qui coûte plus cher pour faire de l'expansion, qui doit demander le travail d'un labo et tout ça, et que l'orthodontiste qui doit poser ça n'a plus son code à utiliser, parce qu'en fait, on a utilisé ce code-là sans ce à l'avance. Alors, c'est un dentiste ou un ortho, hein, logo, vous ne pouvez pas utiliser ces codes-là. Mais donc, ça m'a tout de suite fait penser à ça, parce que ça veut dire qu'on a bloqué quelque chose au suivant, pour le suivant. Et donc, si l'échange est fluide, on évite ce genre d'écueil-là. Mais donc, c'est tarifé aussi à des prix raisonnables pour ne pas avoir à se poser trop la question du remboursement et plutôt pouvoir mettre en place un process avec les praticiens autour de l'enfant et ne pas devoir dire est-ce que j'utilise un code quand c'est pas un logo qui le place ou les logos, vous allez en parler, vous connaissez ça mieux que moi. Et alors il faut parfois faire attention aussi, ça vous pouvez le dire plus précisément, mais parfois il faut dire aux parents aussi, il va y avoir plusieurs appareils parce que c'est des appareils dispositifs souples qui peuvent s'abîmer, et donc si on a garanti qu'il n'y en avait qu'un et qu'on a décidé de tarifer d'une certaine manière et puis que finalement parfois il y en a deux, trois, en fait on se rend compte, nous, quand on a les retours et les questions des praticiens, c'est que c'est très important d'avoir expliqué aux parents à l'avance ce qui peut se passer et de les avoir prévenus, d'avoir dit « Ah, attention, il n'y en aura peut-être pas qu'un seul, voilà, ils ne sont pas pris au dépourvu si jamais des choses comme ça se produisent. » Donc ça fait de 20 à 60, mais parfois mais fois 2, fois 3, donc voilà.
C'est ça l'intérêt justement de l'accompagnement suivi, c'est le fait de voir régulièrement le patient, on s'assure de la bonne utilisation du matériel. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir quand même rarement des appareils qui s'abîment, parce que l'enfant est vraiment éveillé à la bonne manière d'utilisation par rapport à l'appareil quand il est en bouche. Et donc ça s'abîme quand même assez rarement.
Tout à fait.
Maintenant, on doit quand même veiller aussi à ce que l'appareil soit toujours adapté à la taille de la bouche de l'enfant. Donc on est parfois amené à changer de dispositif parce que voilà, il est trop petit.
Tout à fait. On va remercier Jérémy.
Merci à tous.
Merci Jérémy.
Laisser la place à Nathalie. Le temps que Nathalie arrive, peut-être que Sébastien et Brigitte, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous tarifez justement les dispositifs.
Alors au niveau tarification, donc comme Jérémy l'a dit, on achète, on passe par MOS pour acheter les matériels. Et puis alors on remet une facture au patient avec le prix de vente.
Ça, d'accord.
Nathalie va l'expliquer mieux que moi au niveau de tout ce qui est régime TVA, etc.
Ouais.
Et c'est toujours une question qui revient aussi beaucoup dans les formations qu'on donne. Tiens, combien est-ce qu'on voulait vendre? Est-ce que vous faites une marge dessus?
Ouais.
J'ai toujours un peu du mal à répondre à cette question parce que ça dépend de beaucoup de paramètres,
okay.
Du prix où on va les avoir, un peu de la sensibilité de chacun. Ça dépend un petit peu du régime fiscal dans lequel le prestataire se retrouve, s'il est assujetti ou pas à la TVA. Donc, on ne va pas faire x2 dans le prix de vente, bien sûr, des matériels, mais on va faire une petite marge bénéficiaire.
C'est ça.
Parce que légalement, on doit faire une marge bénéficiaire lorsqu'on vend un matériel. Et ça dépend aussi du nombre d'appareils qu'on achète. Donc, comme Jérémy l'a dit, il y a des remises.
Ouais.
Donc, plus on en achète, moins il nous coûte, etc.
C'est ça. Mais donc, tu établis quand même une facture pour le patient pour le dispositif.
Tout à fait.
D'accord, très bien.
C'est aussi une preuve un peu de qualité.
Oui.
Et de garantie, parce qu'il y a une vente qui est mise. Et c'est un matériel médical. Ça, j'aime bien aussi que ce soit mis sur les dispositifs. Et c'est ce que je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure. C'est que ça ne se trouve que chez vous. C'est les prestataires de soins qui peuvent le commander.
Oui.
Donc, ça fait passer ce matériel comme professionnel, comme appareil médicalisé. Et donc, ça justifie justement qu'on doive revendre le matériel et mettre une facture. Parce que c'est un dispositif qui fait partie intégrante de la prise en charge et qu'on peut trouver que via des prestataires de soins.
Ok, top. Nathalie, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Tu es experte comptable.
Oui, c'est ça.
Et donc, du coup, tu vas nous amener justement ce point de vue-là. On était en train de parler donc, de la tarification des dispositifs. Donc, toi, à ce niveau-là, c'est ce que tu conseilles le plus pour que ce soit clair chez tous les praticiens, c'est d'établir une facture par dispositif vendu aux patients.
Pour la transparence,
ouais,
comme ça on a bien l'achat d'un côté et la vente, on sait effectivement le nombre acheté et le nombre vendu. Il faut effectivement faire un stock aussi au fin d'année, au 31 du 12.
D'accord.
Donc, voilà.
D'accord, parce que nous, en effet, on reçoit de temps en temps des logopèdes qui nous disent « Ah, mais est-ce que je peux demander aux patients de payer directement la facture ?» Par exemple, ils prennent un dispositif par patient. Bon, ils payent la facture. Nous, chez MOS, ça ne pose pas vraiment de soucis parce que voilà, la facture est payée. Il n'y a personne qui vient regarder qui a payé. Ce n'est pas problématique. Il n'y a pas de rentrée chez le praticien.
Oui.
Donc là, ça pose peut-être un petit souci.
Ça va poser problème lors d'un contrôle éventuel.
Ouais, c'est exactement. Il y avait une question aussi à propos de la TVA.
Oui.
Tu vas pouvoir nous éclairer. Qu'est-ce que le nouveau régime TVA pour les professions médicales, paramédicales ? Je crois que ça c'est un nouveau depuis janvier 2022.
Janvier 2022,
c'est ça ?
Oui.
Et qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, toutes les professions paramédicales doivent s'inscrire à la TVA en plus de la Banque Carrefour maintenant.
D'accord.
Donc, la première chose à faire, c'est effectivement une inscription à la Banque Carrefour pour obtenir son numéro d'entreprise, qui est l'équivalent du numéro de TVA. Et ensuite, en plus, il faut s'immatriculer à la TVA parce que depuis le 1er janvier 2022, toutes les professions paramédicales deviennent ce qu'on appelle des assujettis mixtes. Donc, ils ont la partie exemptée pour tout ce qui est logopédie ici en question.
Ouais, ouais, ouais.
Et la vente de matériel fait partie de l'assujettissement ordinaire.
D'accord.
Donc là, il y a un régime spécifique qui est prévu pour simplifier quand même de manière administrative la profession.
D'accord. Tout ça, évidemment, j'imagine que vous avez une très bonne relation avec votre experte comptable. C'est quelque chose que vous conseillez à tout le monde d'avoir un comptable et de poser les questions au comptable. A priori, il a les réponses.
Pour moi, il faut prendre rendez-vous avec le comptable avant d'aller à la Banque Carrefour parce que vous allez devoir choisir le régime de la franchise ou le régime ordinaire.
Ouais.
Si vous n'avez pas les explications avant de ce régime, vous ne savez pas pour lequel opter.
Ouais.
Les conséquences peuvent être assez importantes. Et si vous allez à la Banque Carrefour, il y a aussi des personnes qui peuvent vous renseigner, mais elles ne sont pas comptables.
D'accord.
Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans un bureau comptable, et ensuite, qui peut aussi faire les démarches à votre place à la Banque Carrefour.
D'accord.
Et comme ça, vous faites la bonne inscription.
D'accord. Et quand on parle identification à la TVA, donc c'est différent.
C'est
d'avoir, de demander son numéro de TVA à la Banque Carrefour, mais après ça, on s'identifie à la TVA en tant que prestataire paramédical, c'est
ça ? Exactement. Pour la vente, mais vous devez spécifier, donc il y a deux codes NACE que vous devez mettre à la Banque Carrefour, celui pour la logopédie et celui pour la vente de matériel médical.
D'accord, très bien. Et vous avez parlé brièvement là du régime de franchise de taxes.
Alors ça, c'est aussi très spécifique. Ce n'est pas uniquement pour la profession paramédicale, mais on le conseille ici dans le but, comme je disais tout à l'heure, pour une simplification administrative.
D'accord.
Si le chiffre d'affaires pour la vente du matériel ne dépasse pas 25 000 euros par an, on conseille le régime de la franchise.
D'accord.
Qui permet à l'assujetti, donc au logopède, de ne pas effectuer de dépôt trimestriel de déclaration TVA.
Oui.
De ne pas appliquer de la TVA sur justement la vente de ce matériel, qui fait qu'on ajoute 21% déjà sur le prix initial sans avoir pris aucune marge.
Ouais.
Et inversement, il ne peut pas déduire la TVA. Mais ça, par habitude, je vais dire, il était déjà exempté, donc il a l'habitude de ne rien récupérer au niveau TVA.
C'est ça. D'accord, très bien.
C'est un système qui est très, très, très simplifié et très facile justement pour le monde paramédical comme nous, parce que comme dit Nathalie, tout est transparent. Mmh. On a les factures du fournisseur d'achat, on a les factures de vente qu'on émet à nos patients, on n'a pas toute cette paperasserie administrative de TVA à faire comme les vrais assujettis. Et donc, on est vraiment en règle, fiscalement parlant, pour des éventuels contrôles et pour vraiment la transparence avec les patients aussi par rapport à la vente de ces matériels.
C'est ça. Nathalie, est-ce que tu as d'autres conseils que tu peux fournir vraiment spécifiquement comme ça en travaillant avec, avec Sébastien, avec Brigitte pour aider les logopèdes qui sont parfois un petit peu qui ont un peu peur de tous ces termes TVA, régime de franchise,
ça fait peur, et puis
en fait on n'est pas formé aussi à ça hein, donc voilà, est-ce que donc évidemment on a bien entendu ton conseil d'aller voir un comptable avant de s'inscrire et pour essayer de bien tout comprendre. On comprend bien ici que la relation que tu peux avoir avec Sébastien, avec Brigitte, elle est proche et elle est importante. Comme ça, eux, ça les rassure. Et toi, tu peux amener ta connaissance. Mais est-ce que tu aurais d'autres petits conseils à donner comme ça, à ce niveau-là ?
Je vais dire, pas nécessairement, mais bien choisir son comptable. Parce que, alors, il y a un inconvénient au régime de la franchise, c'est que vu qu'il n'y a pas de dépôt, je veux dire, il peut ne pas y avoir de suivi.
Okay.
Donc, c'est un dossier pour un comptable qu'on n'a pas besoin de suivre mensuellement, trimestriellement.
Ouais.
On peut le voir une fois par an.
Okay.
Mais je le déconseille. Nous, dans notre bureau, on voit tout ce qu'on appelle les franchisés. Donc, tout ce qui n'a pas de dépôt de déclaration, on les voit au minimum tous les 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'il faut adapter les cotisations sociales. Il faut éventuellement faire un versement anticipé. Voir où on se situe par rapport à son bénéfice.
Ouais.
À toutes ces choses-là, l'impôt, ça vaut la peine d'être vu. Donc, c'est le choix du comptable pour vraiment suivre l'activité au minimum, je dis, tous les 6 mois. Il ne faut pas laisser son dossier en disant « Oh, ben oui, mais je n'ai pas de déclaration,
ouais.
Donc moi, je n'ai pas besoin.
Ouais, c'est ça.
Je vous verrai l'année prochaine. »
Et avoir, j'imagine, aussi un petit peu d'ordre dans tous ces documents pour
oui.
faciliter les choses, ne pas justement avoir peur de l'administratif, pouvoir s'organiser correctement, ce qui n'est pas toujours évident, hein, puisque bon, on a tous les rendez-vous avec les patients, et c'est un petit peu ça le cœur de votre profession. Mais évidemment, il y a aussi l'enjeu administratif derrière, et donc ne pas avoir peur de s'organiser, de pouvoir le faire. Et comme ça, ça facilite aussi la relation avec le comptable.
Oui, essayer de garder un maximum de documents, et puis voilà, c'est le comptable qui fait le tri, mais s'habituer à mettre, je dis toujours au minimum, tout au même endroit.
Ouais.
Comme ça,
ouais, c'est ça,
c'est plus facile.
C'est vrai que ça fait souvent peur, comme tu dis. Hein. On a beaucoup ce genre de questions dans le monde paramédical, médical, de ces notions d'acheter, de vendre. Je pense que ce qui explique ça, en première partie, c'est qu'on est dans un système en Belgique, et je pense qu'en France, c'est pareil, où le patient a un peu cette impression de gratuité des soins.
Oui,
voilà. Et donc, quand il vient chez le logo, quand il vient chez le kiné, quand il vient chez le dentiste, si l'enfant est jeune, ils sont remboursés pratiquement intégralement, voire intégralement. Et donc, on a, en tant que prestataire de soins, un peu comme si on était gêné de devoir proposer quelque chose à vendre sur lequel le patient ne va rien retoucher. Parce qu'on ne peut pas mettre ça dans un code, on n'a pas de code de nomenclature, il n'y a pas de remboursement possible pour
D'accord.
ce type d'appareil.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a des logopèdes qui sont un petit peu réticentes quant à devoir émettre une vente d'un matériel qui ne va pas être remboursé alors qu'il est dans ce parcours de soins
ouais.
et qu'il est indispensable.
Tout à fait.
Nous, on est vraiment sortis de ça parce que c'est tellement important d'avoir ce relais nocturne et d'avoir cet outil thérapeutique qui est indispensable, qu'on se rend compte au final que sur une bonne année de traitement, l'investissement il est faible.
Oui.
C'est un coût qui est vraiment quand même limité dans cette famille d'éducateurs fonctionnels. Et je pense que c'est un cap à passer. Et une fois qu'il est passé, on n'a jamais eu de refus, hein, Brigitte, de parents par rapport à l'accès aux tarifs. Ça n'arrive pas.
Ok, génial. Je pense qu'on a balayé pas mal de questions soulevées.
Ouais.
J'espère qu'on a répondu à pas mal de problématiques que les auditeurs et les auditrices se posaient. On va clôturer ici. Je vous remercie pour toutes les informations et votre expertise, parce que je pense que c'était nécessaire de balayer un petit peu toutes ces questions qui sont posées régulièrement. On se retrouve plus tard pour l'épisode 4.
Merci Grégoire, merci beaucoup Nathalie.
Merci.
Oui, merci Nathalie.
Avec plaisir.
Et alors, auditeurs, auditrices, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions auxquelles on n'aurait pas répondu cette fois-ci. On peut toujours en refaire un autre épisode sur les questions, les nouvelles questions soulevées. Vous n'hésitez pas à nous envoyer ça. Merci à tous et on se retrouve pour l'épisode 4.
À bientôt.
Parlons fonction. fonctionne.